Benoît Rioux, comment ça va? Troisième épisode des Buts remplis. Ça va, mon Ben?
Ben ouais, j'ai mis mon chandail de Noël aujourd'hui.
Ben oui,
On a
t'es
un
en
beau
avance.
cadeau. On a un beau cadeau pour nos auditeurs. On a un nouveau chroniqueur qui va apparaître plus tard dans le show. On vous réserve la surprise, c'est qui?
Ouais, on a un bel épisode bien rempli. On a deux invités qui nous attendent là, dans la salle d'attente. On va les rejoindre dans quelques instants. On va avoir un petit débat aussi entre moi et toi, Ben. Ça fait depuis mercredi, en fait, depuis le match sans point de coup sûr de Carlos Rodon qu'on s'obstine. On va continuer à s'obstiner tantôt. On va avoir un arbitre.
J'ai
Et
gardé mes
puis,
meilleurs arguments pour le show.
c'est correct. Je pense que j'en ai beaucoup entendu cette semaine. On verra si tu en as réussi à en trouver des nouveaux. On verra. Donc, restez là. Et aussi, on a notre petit segment Pitch and Catch qui est très, très intéressant aujourd'hui. Moi, je te conseille la glissante, mais on s'en reparle tantôt. Alors, on va rejoindre, on va faire amener nos invités dans le podcast. Alors, Maxime Lamarche et Vanessa Riappel. Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec et ancien des Capitales de Québec. Et Vanessa Riappel, coordonnatrice du développement et leadership féminin et ancienne joueuse de l'équipe nationale. Alors, bonjour à vous deux.
Salut, bon matin.
Merci d'être là. D'abord, là, je pense que les camps sont pas mal commencés dans la majorité des régions en ce moment, avec les jeunes. Comment ça se passe dans le réseau?
Ça va drôlement bien. Et je pense que tu sais, ce qui se passe présentement, c'est qu'on a tellement de la belle température, on n'est pas habitué à ça. Hein. Je reviens sur le fait que la dernière fin de semaine du mois de mars, on était ces terrains à se lancer puis à frapper des balles, pas dans la boîte, pas dans rien de mouillé, sur du terrain très, très, très sec. Donc, ça, sans dire que ça faussait un peu les données, ça a fait que tout le monde, là, présentement, est comme rendu à sa deuxième, troisième, quatrième semaine d'entraînement et se prépare lentement pour la saison. On est quand même juste en avril. Je pense qu'il y avait au-dessus d'une soixantaine d'associations qui étaient sur les terrains de balle en fin de semaine. Après ça, il y en avait peut-être une quinzaine qui étaient sur d'autres terrains, terrains de football, terrains de soccer synthétique pour faire les évaluations parce que les municipalités sont en train de préparer les terrains, justement. C'est pas prêt partout, mais ça bouge vraiment, vraiment beaucoup. Mais médias sociaux ont débordé de belles photos de jeunes qui étaient heureux, ces terrains de balle, puis qui respectaient aussi les règles qu'on a mises en place, qui étaient le plus important.
Comment vont les inscriptions, là, tu sais, autant, parce que c'est sûr que c'est une période qui n'est pas évidente, là, tu sais, même pour les parents, pour planifier l'été, puis tu sais, tout ce qui entoure les sports extérieurs, on a-tu besoin d'un masque, on n'a-tu pas besoin d'un? Comment vont les inscriptions? Est-ce que ça vient nuire aux inscriptions ou au contraire, on pète des records d'inscription parce que papa puis maman vont pas à Old Orchard cette année, là?
Ouais, j'ai pas analysé si le fait qu'ils se vendent plus de roulottes a un impact sur notre saison de balle, mais Ben, honnêtement, deux choses. On ne sait pas ce qui se passe, mais les gens sont de plus en plus habitués à ne pas savoir ce qui se passe. Donc, tout le monde planifie un peu quand même. Tu sais, l'année passée, les gens étaient vraiment ces breaks à ce temps-ci de l'année. Tu sais, tout est arrêté. Puis les inscriptions, je me souviens, quand on est arrivé à la fin du mois de mars, là, ça avait arrêté. Là, c'était une tranche, là. Boum, ça n'avait pas reparti avant la mi-juin. Les gens, présentement, là, sont en train de se préparer pour leur été. On le sait qu'on est les conditions font que ça ne sera pas un été encore une fois normal ou est-ce qu'on va avoir des règles à suivre, mais ils sont en train de s'inscrire. Puis rappelez-vous une chose, c'est qu'il y a une grande majorité des enfants au Québec qui n'ont pas fait de sport cet hiver, qui n'ont pas bougé. Fait qu'en plus d'avoir nos joueurs et nos joueuses de baseball qui veulent se réinscrire comme d'habitude, année après année, là, on a aussi des jeunes, puis Vanessa pourra parler des filles, mais on a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais fait de baseball et qui se disent, ben, pourquoi j'essaierais pas ça, moi, le baseball cet été? D'un, on me dit que c'est sécuritaire. Non. Papa, maman entend que c'est sécuritaire parce que l'enfant, c'est pas ça son premier point, là. Donc, papa, maman entend que c'est sécuritaire. Hey, il y a juste eu un cas de COVID dans les 25 000 joueurs en 2020. Donc, ils ont sûrement bien fait les choses. Puis après ça, ben, là, notre sport devient de plus en plus populaire. Tu vois dans ton école passer des casquettes de l'association locale. Moi, ici à Mascouche, là, c'est terrible, là, comment je vois des casquettes de baseball de l'association des mercenaires, là. Puis Sylvain, toi, t'es affronté quelques fois les mercenaires à BCL, là. Mais on en voit beaucoup passer. Fait que ce qu'on appelle le peer-to-peer, les amis qui parlent aux amis, ben, ça fait des petits. Moi, mon gars à la garderie, là, c'est deux, trois de ses amis qui sont inscrits au baseball. Puis mon gars est venu me voir, il dit: Papa, je veux jouer au baseball. OK, ben, je vais t'inscrire. T'sais. Fait que ça bouge. Hey, ça bouge vraiment beaucoup cette année, là,
sérieux. Tu voulais pas l'inscrire au soccer?
Écoute, mes deux gars ont joué au soccer, Ben. Puis c'est très important. Pour moi, c'est très important le multisport. Faut que je prêche par l'exemple. Mais tu sais, je t'avouerai que quand il est venu par lui-même me dire « Papa, j'ai le goût d'essayer le baseball », ça m'a fait un petit quelque chose.
Excellent. Ouais, Vanessa, je suis content que tu sois là parce que je constate que le baseball féminin a une ascension fulgurante. Et là, en fin de semaine, je suis allé voir, moi je suis à BCL, baseball de Charlemagne, le gardeur ici, et j'ai fait sortir aussi les chiffres de la région de la Nodière, là. Au baseball féminin depuis 2017, là, depuis 5 ans, on est passé de 190 à 321, c'est 69% d'augmentation dans la région. Et à BCL ici, là, c'est une petite association, mais quand même, on est passé de 20 filles à 64 filles cette année. Ouais. C'est 220% d'augmentation, là. C'est incroyable.
Ouais, c'est incroyable. Je suis dans le CA de la Ligue féminine, puis c'est fou, là. On a envoyé des sondages aux associations de savoir combien d'équipes qui pensaient envoyer dans la Ligue et tout. Puis on dépasse le 100 équipes là, présentement, donc c'est assez incroyable. Là, on va être autour de 120. Donc, je pense que le fait aussi que ce soit une Ligue féminine, que les filles jouent contre les filles, ça amène les filles qui ont peut-être toujours voulu essayer, mais qui étaient peut-être moins propices à vouloir essayer ce sport-là devant des gars. Donc, le fait que ce soit dans un milieu de femmes, je pense que ça l'aide aussi. Puis, on est allé chercher aussi même des équipes de sport de glace qui n'ont pas joué, qui voulaient peut-être juste peaufiner leur esprit d'équipe. On parle de multisport tantôt, qui amènent carrément leur équipe de hockey, leur équipe de ringuette sur les terrains de baseball, ils ont jamais joué. Puis c'est déjà des athlètes, c'est des filles qui aiment bouger. Pourquoi pas profiter de l'été là, pour venir essayer un nouveau sport? Donc ça a beaucoup aussi moussé les inscriptions. Là.
Parce que c'est jamais mauvais de faire deux sports de toute façon, là, un l'hiver, un l'été.
Ben, en fait, je suis une multisport. Dans mon temps, j'avais pas de sport-études. Puis en fait, j'aurais grandement aimé, là, puis je sais que dans les sports-études aussi, ils font maintenant du multisport, ils font d'autres sports parce que c'est ça qu'on promouvoit chez Baseball Québec. Mais moi, je suis une fille de flag football, de basket, je jouais à ça l'hiver, puis quand j'arrivais l'été, ben je reprenais mon gant, puis j'ai fait vraiment plein de sports. Donc, je pense que les filles de hockey, les filles de ringuette, de basket, sont non seulement les bienvenues, mais ils peuvent améliorer leur qualité athlétique aussi en baseball, là. Oui, surtout leur mental en tant qu'athlète. Oui.
Hey, les gars, laissez-moi, Ben et Sylvain, là, je veux juste vous dire comment c'est fascinant quand on a pris la décision d'engager Vanessa sur tout le contexte et tout ce qu'elle vient de vous dire. Tu sais, on est une fédération qui prône vraiment l'équité et qui prône vraiment que les femmes prennent de plus en plus leur place dans le baseball, mais on n'est pas des femmes. Et juste dans tout ce que Vanessa vient de dire, les petits détails à plein d'endroits, ça fait qu'on a plein de quick wins où Vanessa me parlait sur une vidéoconférence, elle me disait « Là, Max, on peut-tu juste changer dans le nom de la Ligue féminin de place parce que ça a un impact? » Puis Max, on peut-tu arrêter de mettre sur la manche d'une fille de l'équipe du Québec une manche, un gros logo de baseball féminin? Calvaire, ils jouent au baseball, eux autres aussi. Les filles, on joue au baseball, on ne joue pas un autre sport qui est le baseball féminin. Et là, lentement, pas vite, elle faisait des liens. Puis là, je me disais, oui, c'est vrai, ça. Ben, puis moi, je me sentais incompétent parce que j'étais comme, hop, la vie, ça va bien, le baseball féminin. Puis là, je me rendais compte qu'on avait tellement des grands pas à faire. Fait que je suis vraiment content de compter Vanessa dans notre équipe parce que...
Elle a même fait changer le site web de Baseball Canada. C'est ce qu'André Lachance me dit. Parce qu'il y avait sur le site web de Baseball Canada équipe canadienne, puis après équipe féminine canadienne. Tu sais, c'est pourquoi que l'équipe canadienne, par défaut, et l'équipe masculine, tu sais. Donc, c'est juste
devenu... Puis, tu sais, c'est même dans les articles, tu sais, t'es journaliste, Benoît, puis, tu sais, c'est dans les articles qu'on écrit, comment qu'on parle, c'est rare que, tu sais, souvent, on se rend compte là, qu'on parle du volet masculin au dernier chapitre, là, tu sais, au dernier paragraphe. Mais quand on parle des femmes, on le dit tout le long, là, baseball féminin. C'est comme si, quand on parle du baseball, c'est acquis qu'on parle des hommes. Donc, si on veut parler du baseball féminin, ben, il faudrait parler du baseball masculin aussi, puis que ce soit très clair tôt dans l'article. C'est comme si on insinue que le baseball, le mot baseball, c'est aux hommes. Puis, le baseball féminin, il faut le spécifier, là. Fait que, tu sais, c'est autant, est-ce qu'on le dit baseball féminin? Si oui, on doit dire baseball masculin, ou sinon le baseball joué par les filles. Donc, souvent, tu sais, c'est juste d'utiliser les bons mots, puis ça fait vraiment toute la différence. Puis moi, cette année, je veux que mes filles des équipes du Québec portent le mot baseball puis Québec. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'ils sont des femmes, ils le savent très bien. Donc, ce ne sera pas marqué sur leur chandail féminin. ils sont fiers de représenter la fédération, ils sont fiers de représenter, d'être dans les tops, les meilleurs au Québec. Moi, je veux voir Québec en gros, faut être fier de ça. Puis, on représente le baseball. On se fait souvent dire, ah ouais, tu lances-tu par en dessous, toi? Mais non, je joue au baseball. Donc, ça va être clair, ça va être en gros baseball Québec. On ne mettra pas d'autres mots. Puis, je pense que ça va leur amener aussi un beau sentiment d'appartenance par rapport à leur sport qui est le baseball.
C'est en choix. Dans le fond, les règlements ne sont pas différents. Là. Les règlements ne sont pas différents, que ce soit masculin ou féminin, en bout de ligne. T'sais.
Non.
C'est en choisissant les bons mots qu'on va changer la culture, finalement, tu sais.
Oui, puis tu sais, je suis d'accord que c'est difficile de changer le baseball féminin, là. Tu sais, je vous entendais parler, tu sais, dans plusieurs podcasts, justement, dans l'article que tu as écrit, Benoît, les top 20, puis là, que j'avais dit qu'on changeait la ligue pour la ligue féminine. Mais tout le long de l'entrevue, c'est difficile de changer les mots. On a toujours dit baseball féminin. Tout le long de l'entrevue, vous étiez d'accord avec moi, mais tout le long, on a quand même dit baseball féminin. Puis même moi, ça fait tellement d'années.
Juste tantôt, là, on va reculer la cassette et dire hockey féminin, tu sais.
Puis c'est la même chose, tu sais, c'est la même chose au hockey, c'est la même chose. Il y a tellement plein de sports. Puis quand on se parle en athlète, tu sais, je t'ai mis avec Mélodie Daou du hockey. Tu sais, c'est la même chose. C'est des sports qui ont été créés par des hommes, qui ont été gérés par des hommes. Mais on est en 2021, on est tellement un Québec ouvert d'esprit. Puis je pense qu'on peut changer là, cette donnée-là facilement. Mais évidemment, ça va être difficile. On est tellement habitué de dire ça. Mais je pense que si on fait chacun un petit effort, on va y arriver.
Tantôt, on parlait des filles qui ne lançaient pas par en dessous. Puis en parlant de filles qui ne lancent pas par en dessous, tu en es un exemple incroyable. Donc, on va terminer notre entrevue avec une portion de l'entrevue que je dirais que le titre pourrait être Vanessa va aimer moins ça, mais je m'en vais là pareil. Vanessa aime beaucoup parler de la cause du baseball féminin, puis tu sais, peut-être t'aimes moins parler de tes exploits personnels, ouais. Mais on a quand même avec nous, puis Sylvain l'a dit dans la présentation, deux quand même joueurs de baseball qui ont fait leur marque. Donc, j'ai sorti quelques trucs, puis je vais commencer à par Max, peut-être, comme ça, Vanessa, ton stress va pouvoir descendre un peu.
C'est le mien qui augmente présentement, c'est drôle à voir.
Ma question, en général, c'est quel est votre plus beau moment de baseball que vous avez vécu en jouant? Pendant que Max, tu y penses, je peux informer les auditeurs que tu as joué 22 matchs avec les Capitals. En 2006, ta moyenne au bâton a d'ailleurs été de 1000, parce que tu as eu 1-1-1. Puis,
c'est pas vrai, tu mets des choses en contexte, rendu là.
Ouais, ouais.
Une moyenne de 500 en 2007, donc 1-2, mais tu as joué aussi 20 matchs. En 2005, où je voyais que le receveur principal était Olivier Lépine, puis ce que j'étais heureux de constater, c'est que tu as joué avec un joueur des As de Schlager-Centre-Sud, soit Marc-André Cloutier.
Avec Coco!
Avec oui. Coco. Mais ça a été quoi ton plus beau moment de baseball au cours de ta carrière?
Le plus beau moment de ma vie, là, baseball, c'est avec les Capitals, justement. Je jouais vraiment pas souvent avec les Capitals. Là. J'étais un backup, j'étais un bullpen catcher. Olivier jouait presque tous les matchs. Je jouais une fois aux 6 jours. Pas de timing, rien. Et on est arrivé vers la fin de la saison. On avait un ancien lanceur des Ligues majeures, Marty Jensen, qui avait lancé pour les Blue Jays de Toronto. Et jusqu'en 8e manche, et j'étais receveur, et jusqu'en 8e manche, Marty avait un match parfait.
Wow.
Et je m'en souviens encore comme si c'était hier, le nom du frappeur, c'était King, son nom de famille, je ne me souviens pas son prénom.
King, non?
King, il était gros, il était costaud en effet. Et en 8e manche, 2 retraits, on est encore dans la course pour le match parfait. Je demande une curveball. Il me dit non, puis toute la game, on s'était dit oui, ça allait super bien. Il me dit non, je redemande une curveball. Il me dit non, il va avec une rapide, donne un coup de circuit, tout a arrêté là. Fait que plus de match sans point de couture, plus de match parfait. Il a gagné sa game, mais le rêve s'est envolé, mais ça reste quand même que ça a tellement été un beau moment d'adrénaline, ce moment-là, ces 8 manches-là. Là, c'est vraiment un beau moment que j'ai vécu.
Il faut toujours écouter son receveur.
Toujours. Oui, à chaque fois, on se fait avoir.
Vanessa, toi, tu as été longtemps sur l'équipe nationale du Canada, médaille d'argent aux Jeux panaméricains, entre autres, mais ce que je sais de toi, c'est que À chaque fois que le Canada affrontait soit les États-Unis ou le Japon, tu voulais avoir la balle parce que tu étais prête à affronter les gros défis. Je sais que tu as eu un excellent match un moment donné, là, je ne pourrais pas te dire quelle compétition, contre les États-Unis, entre ouais. autres. En tout cas, André Lachance, il en parle. Il y a le poil qui lève ses bras, puis il y a de l'eau dans les yeux quand il en parle. Mais, je ne sais pas si c'est ton plus beau moment. Là. Toi, c'est quoi ton plus beau moment?
Écoute, c'est dur d'en choisir un. Je te dirais que ce match-là, il est vraiment resté gravé à jamais. Là. Le match contre les États-Unis, c'était à la Coupe du Monde. On les avait vraiment dominés. Puis, tu sais, quand je parle de mes bonnes performances, c'est surtout, c'était un match défensif aussi. Là, ma défensive, elle a été impeccable. Moi, j'étais dans ma bulle. Tu sais, un match que tu finis, puis tu fais comme, allez, qu'est-ce qui vient de se passer? Mm-hmm. J'étais tellement dans ma bulle. J'ai encore en photo là, le tableau de 0-0-0-0-0 que j'avais pris en photo. Puis on dirait que j'ai fini le match, je me suis comme réveillée. Puis j'ai jamais été autant dans ma bulle que ça. J'avais le bras lourd, je me sentais bien. Un autre de mes beaux moments, puis c'est drôle parce que j'en ai parlé à ma rencontre avec mes filles des équipes du Québec. J'ai joué longtemps sur les équipes nationales, mais un de mes plus beaux moments, c'est avec Stéphanie Savoie quand j'avais le jersey de Team Québec. Puis c'était la grande finale Bantam. Stéphanie Savoie, elle a été catcheur tout le match. Moi, j'ai lancé un master, puis on avait enfin battu l'Ontario en finale. Je pense que c'était une des premières victoires là, du Québec contre l'Ontario. Puis encore une fois, c'était un match que j'ai de la misère à me rappeler, mais à quel point j'étais dans ma zone, là. Ça, c'est un beau moment. Puis, tu sais, les filles aspirent beaucoup à être sur l'équipe nationale, mais j'ai tellement de beaux moments avec mes jerseys de l'équipe du Québec que je leur rappelle qu'ils chérissent là, ces moments-là, puis qu'ils arrêtent de juste penser à l'équipe nationale, même si c'est un beau rêve, mais de profiter là, de l'été qui s'en vient. Là. Même si les championnats canadiens sont annulés, moi, mes plus beaux moments, ça a été ça aussi. Là.
Stéphanie Savoie, qui est au temple de la renommée du baseball québécois, qui a été la première joueuse, sauf erreur. Puis c'est un receveur originaire de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent. Ouais. Donc, un catcher venant du bas du fleuve, tu pouvais juste avoir du succès. Dans hey, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Lâchez pas, vous faites un super travail pour les inscriptions et tout. Puis merci beaucoup. Puis envoyez donc, lâchez pas le bon travail. Puis,
j'adore votre nom de show. C'est drôle parce qu'avec l'équipe nationale, on était 2-3 Québécoises. Puis quand elle allait au bâton, on disait envoyez donc. Puis là, les Ontariens, c'est vraiment. Ça veut dire quoi ça, envoyez donc? C'est comme let's go. Puis là, ben, l'équipe nationale, toutes les Anglaises, quand Stéphanie Savoie allait au bâton, tout le monde était là envoyez donc. C'était vraiment bon.
C'était quoi, toi, ton surnom quand tu jouais pour l'équipe nationale? Vanessa, Van?
Hey, je me souviens plus. Mais André disait Riopel.
Envoyez donc, Riopel! Envoyez donc! Excellent. Hey, merci beaucoup. Hey,
merci à vous deux.
Ouais, la gang.
Merci.
Salut. Merci. Alors, mon Ben, on a un nouveau chroniqueur.
Es-tu arrivé?
Oui, il est là. Il est là, je le vois. On va le rentrer. Osoué Pelé, merci d'être là.
Salut les boys.
En étant là,
ça va bien? Yes.
Excellent, excellent.
Écoute, merci d'être là. Merci d'avoir accepté, en fait, d'avoir une petite chronique sur notre podcast là, de temps à autre. Puis là, on va faire la chronique aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on va faire une entrevue un petit peu plus en profondeur avec toi pour découvrir qui tu es, en fait. Chose certaine, j'aimerais savoir d'abord tes commentaires sur ce qui se passe avec les Blue Jays. Là, on sait que tu as été dans le vestiaire avec les joueurs comme interprète, entre autres. Fiche de 7-8, on vient d'en perdre 3-4 à Kansas City. D'après toi, là, qu'est-ce qui se dit dans le vestiaire? Est-ce qu'on est satisfait de notre début de saison?
Bien, c'est sûr que c'est un petit peu difficile à évaluer un petit peu les Blue Jays en ce moment. Leur gros morceau au bâton en Springer n'est pas là depuis le début de la saison. Teoscar Hernández n'est pas là non plus à cause du COVID depuis un petit bout. Donc, c'est certain que je suis sûr que Charlie, là, il aimerait ça avoir ces deux gros canons. Là, c'est quand même deux gars, leur lead-off puis leur quatrième frappeur, là, malgré que Vlad peut-être qu'il va tomber 4 là, avec son début de saison. Mais c'est certain là, qu'ils ne doivent pas être, je dirais pas inquiets, Mais c'est certain qu'ils doivent avoir hâte là, de revoir leurs deux gros morceaux. Puis, d'un autre côté, je pense qu'ils doivent être très contents. Là, leur lanceur de relève, là, c'est une des meilleures dans la ligue pour l'instant. Puis, il y a quelques belles surprises. Là. Matt lance super bien.
Ouais.
Partant, je pense que c'est quand même bien, là, mais je pense que c'est plus un petit peu plus d'attaque là, qui va leur manquer. Mais je ne suis pas inquiet là, pour l'instant. Puis, je pense qu'eux autres non plus, là, ça ne doit pas être très, très alarmant. Là.
Notre grand débat de la semaine, hein, Sylvain, il ne concerne pas les Blue Jays.
Moi, non, je pense qu'on en a long
à débattre. Donc, je te laisse présenter ça. Puis je pense que Osoué va avoir les dents bien aiguisées là, pour rentrer dans la mêlée pour parler de ce beau débat-là.
Bon, là, je redoute que vous vous êtes consulté cette semaine pour vous liguer contre moi, mais c'est pas grave. Moi, je vais quand même tenir mes arguments. Mercredi passé, Carlos Rodon des White Sox de Chicago a lancé un match sans point de coup sûr. En fait, c'était un match parfait jusqu'en 9e manche. Premier frappeur de la 9e manche, Josh Naylor frappe un roulant vers le premier coussin. Et là, Ozzie Brew est obligé de faire le grand écart pour retirer Naylor qui a plongé tête première au premier but. Mon point là-dedans, c'est que si le roulant avait été fait en 4e manche, Josh Naylor n'aurait jamais plongé au premier coussin. Je trouve ça un peu un manque de respect quand le lanceur est en train de lancer un match parfait, d'essayer de plonger pour voler un coup sûr. Une chance, il a été retiré. Le frappeur suivant, Roberto Pérez, le receveur, glissante à l'intérieur, bouge pas, frappe le haut du pied, atteint, perd son match parfait malheureusement. Et là, finalement, il a quand même réussi un match sans point ni coup sûr, là, ce qui est extraordinaire. Mais mon point, c'est que je pense que la glissante, il l'a vu venir, je pense qu'il aurait pu se tasser le pied puis tu sais un peu respecter. Moi, mon point, c'est si tu veux avoir raison du match parfait ou du match sans point ni coup sûr, frappe la balle d'aplomb, frappe un double dans l'allée, frappe un circuit, frappe un simple solide. Écoute, c'est correct, tu l'as mérité, mais d'aller essayer de grinder comme on veut un coup sûr ou un frappeur atteint, ou c'est je trouve ça un peu déplorable à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en dites?
Moi, mon point, c'était plus que, tu sais, au niveau du baseball, c'est un sport où il n'y a pas de temps, tu sais, c'est jamais fini tant que c'est pas fini, tu sais, puis je trouve pas que les joueurs devraient nécessairement adapter leur façon de jouer en fonction de peut-être que l'autre équipe va faire un match parfait, un match en point de coup sûr. Je veux dire, quand que t'arrives au bâton, t'es dans un spirit que t'as ton plan de match quand t'arrives au bâton, puis je veux dire, t'as pas à tenir compte de est-ce que l'autre lanceur a un match en point de coup sûr.
Ouais, mais tu peux pas me dire que Josh Naylor a pas modifié sa façon de jouer en plongeant au premier coup. Tu sais, ça avait été frappant en deuxième manche, il aurait jamais plongé. Là, ça aurait été un retrait trop facile, là, tu comprends?
Je pourrais pas dire pour Naylor, mais par contre, pour Perez, tu sais, premièrement, je pense pas qu'il a tant fait exprès pour pas se tasser. C'était une slider à 88 000 à l'heure. Là, fait que,
ouais.
Ça vient très, très rapidement. Puis, ce que je trouvais intéressant, c'est que après le match, Rodon a dit qu'il aurait fait la même affaire de Perez. Il se serait pas nécessairement tassé, mais où ce que Perez a peut-être un peu menti, il dit « j'étais pas au courant que... »
Ouais,
arrête, là, maintenant.
Ouais, au jouer, toi, t'as joué là, la game. Là. Je veux dire, quand il y a un match parfait en cours, là, tout le monde est au courant dans le stade. Là.
Ben, c'est certain que tout le monde est au courant. Moi je vais te poser une question, Sylvain, puis tu me diras ce que tu en penses.
OK.
Le Canadien est en train de jouer contre Boston. OK? Puis on va dire que le goaler de Boston, il a un blanchissage. Là. Il mène 3-0, puis il reste une minute à la game. Puis le Canadien est en power play, il donne la rondelle à Weber. Penses-tu que Weber va essayer de faire un slap shot moins fort parce qu'ils savent qu'ils vont perdre de toute façon, mais l'autre gardien a un blanchissage? Alors, lui, il se dit « Oh, ben, pourquoi j'essaierais de shotter ça fort puis scorer? C'est déjà fini. » L'autre gardien, tu sais, ils vont pas changer leur façon de faire leur power play parce que l'autre équipe a un blanchissage puis ils gagnent. Donc, ce que Naylor a fait d'abord, c'est complètement stupide parce que quand tu glisses au first, tu es plus lent. Tu te ralentis pour aller au but. Donc, est-ce qu'il a essayé vraiment d'enlever le match parfait? Ben, probablement que oui. Tu sais, c'est poche là, quand tu es sur l'autre côté puis t'arrives chez vous, ouais, on s'est fait nos hits, tu sais. C'est sûr que tout faire pour pas que ça l'arrive, parce que c'est quand même gênant, là, quand tu es là, mais je pense que t'arrives en 9e, oui, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il y a un match parfait de l'autre côté. Donc, t'essaies quand même de battre ça. Tu veux être les gars qui le bat. D'un côté, je suis d'accord avec toi, frappe le clean, frappe une balle dans le champ.
Non, c'est ça, c'est mon point. Je veux dire que ton exemple de hockey est excellent. Là, je veux dire, c'est la game. Je veux dire, tu vas lancer, tu vas essayer de marquer, ça c'est clair. Mais au baseball, je veux dire, je ne vais pas empêcher le joueur d'essayer de frapper un circuit, de frapper un double, frapper un trip au bâton si la balle est là. Je veux dire, de slider face première au premier coussin pour essayer de prendre de vitesse le joueur de premier but en neuvième manche, alors que tu n'aurais sûrement pas fait ça en deuxième manche. C'est là qu'est mon point. C'est qu'on a essayé de tout faire pour le voler.
Si la game était 2-1 et il n'y avait pas de no hit, no run, il aurait fait pareil parce qu'il essaie de se rendre ses buts. C'est la neuvième manche. T'sais, en neuvième manche. Ouais, là, pour donner raison à Benoît, en neuvième manche, t'as pas de temps, là. Tu peux quand même revenir, tu sais. Surtout que là, peut-être que tu te donnes une chance, peut-être que t'enlèves le match sans point ni coup sûr, puis tu sais, ils vont amener un autre lanceur, puis là, la manche va continuer. Donc, de ce côté-là, je trouve que Naylor l'a bien fait, mais encore une fois, tu te ralentis. De ce qui est du côté de Perez, ça, là, par contre, oh là là, tu peux aller te chercher tellement d'ennemis dans la ligue, pas juste pendant le match, mais dans la ligue, parce que si tu reviens là, si tu reviens un petit peu puis tu vois le vidéo là, il n'a pas essayé de se tasser, mais mais il a quand même gardé son pied là, puis je crois qu'il a quand même espéré de se faire frapper. Cependant, si Perez avait été de l'autre côté de la médaille là, je le connais Perez, là, on a beaucoup parlé là lorsqu'on jouait souvent contre les Indians. C'est un gars là qui joue hard là. C'est un gars qui est très bon, qui prend ça à cœur. S'il avait été receveur, je suis certain qu'il aurait dit quoi au frappeur.
Ah ouais. Hein?
Ah, je suis 100% sûr. Puis c'est quoi? Je pense pas que ce gars-là va jouer pour les White Sox dans un avenir parce que crois-moi que dans la chambre là, des White Sox, là, ça doit être le mal-aimé là, Perez en ce moment. Mais de l'autre côté, Rondon avait juste à faire un meilleur lancer parce que on va se le dire, le lancer était quand même dans la boîte du frappeur. Donc, c'est au lanceur. Tu sais, t'as un match parfait. Là. Il aurait pu lancer sa slider un petit peu plus dans le milieu ou un petit peu plus à terre. Il a quand même lancé dans son air de frappeur. Mais je te le dis là que connaissant Perez, il savait très bien. Là, il savait très bien que c'était un match parfait. Et c'est certain que c'est toujours cool d'enlever ça à quelqu'un. Mais de l'enlever de cette façon-là, je te le dis, là, je suis certain qu'il y a même des joueurs des White Sox, là, des Indians qui ont dit hey man, peut-être là, que
tu aurais. C'est peut-être pas nécessaire.
Exactement, mais tu sais, ça sortira jamais.
Puis c'est pas comme si le pied, c'était la partie du corps la plus difficile à tasser là, quand la balle arrive. Là. Puis tu sais, c'était pas une rapide à 95 non plus. Là. Je veux dire, elle a une curve, tu la vois arriver. Je veux dire, il envoie des lancers aux autres. Là. Je veux dire, dans notre ligue de garage, Ben, peut-être qu'on. Oh mon Dieu, ça avait ben trop vite, là, on l'a pas vu. Mais je veux dire, au niveau du baseball majeur, les gars envoient un puis un autre. Là.
Ouais, mais.
Ligue de garage, pas de pitch à 88, surtout pas des sliders.
Mais ce que je m'en allais dire, c'est crois-moi qu'à 88, tu vas avoir mal pareil.
Oui, non, mais ça, c'est clair.
Tu vas avoir très, très mal pareil.
Où ce que je rejoins Josué, c'est tu sais, la position de base du frappeur. Là, il était quand même tu sais, très loin du marbre aussi. Tu sais, puis c'était un pitch à effet et tout. Donc, je rejoins Josué qui dit que tu sais, à un moment donné, c'était au lanceur aussi là, de ne pas faire. Tu sais, c'était un mauvais lancer, là, c'était un mauvais pitch qu'il a fait.
Oh ouais.
Fait que j'en reviens à ça. Le point où que vous ne serez vraiment pas d'accord avec moi tous les deux, là, mais Sylvain ne sera pas nécessairement surpris. Moi, je suis un type de joueur que je vais tout faire pour. Tu sais, je vais peut-être même changer ma façon de jouer. Justement pour enlever.
Dans le fond, c'est toi, Roberto Perez.
Ben, probablement. Mais ça se peut. T'sais, honnêtement, là, je plaide coupable parce que je suis un peu un bras de marchand du baseball, mais ça se peut que j'aurais fait exprès de rester là puis me faire atteindre pour enlever le match parfait. Puis c'est pas correct de le faire, mais moi, quand je suis sur un terrain de baseball, si on m'appelle la hyène, puis j'ai de la grit, puis c'est comme je vais tout faire pour, à la limite, me faire haïr pour le prochain match, puis les autres matchs de la série. Puis je le sais que c'est pas correct, mais je comprends, moi. Quand tu es dans un spirit, tu es sur le terrain, tu veux battre l'adversaire, tu veux y faire mal de n'importe quelle façon.
Mais Benoît, je suis pas d'accord avec toi.
Je le sais.
Mais non, mais Je suis pas d'accord avec toi avec le fait que tu dis que c'est pas correct. Au contraire, tu ne fais rien d'illégal. Au contraire, tu te bats. Puis c'est quoi? C'est tellement bon parce que l'autre équipe va se concentrer juste sur toi. Donc, toute l'énergie de l'autre équipe va aller sur toi. C'est parfait jouer de même. C'est numéro un. Tant que tu ne dépasses pas les limites. Je te donne un exemple. Tu te rappelles la game qui a fini par un hit by pitch, un frappeur atteint, Conforto, des Mets?
Ouais.
Il a mis sur...
D'allonger son corps pour aller chercher la balle.
Puis on va se le dire là-dessus, l'arbitre n'était pas bon.
Ben, écoute, l'arbitre, la MLB aussi, parce que ça a été en reprise. J'aurais dû dire non,
sort. T'es dans la zone des prises.
Puis Benoît, en plus, il y a un protecteur. Enlève ton protecteur, mets ton coude, puis là, on en parlera. Il m'a lancé une balle à 97, direct sur le coude. Tu vas être parti pendant 2-3 mois parce qu'on va te casser le coude. Ouais. Tu as fait gagner ton équipe. Parfait, va-t'en 2-3 mois. Tu comprends? Je ne suis pas certain, Benoît, que si tu affrontais du 97-98, tu voudrais te mettre devant la balle comme ça exprès pour que ton équipe continue. Tu comprends?
Faudrait que j'aille bien gros le lanceur qui est en train de faire un match
parfait. Non, mais tu me suis dans ce que je te dis. Tandis que Roberto Pérez, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, écoute, c'était une 2. Il y avait. Tu sais, je pense pas que si ça avait été une rapide à 96, il y aurait OK, je vais rester là puis je vais me faire biner 1-1-1. Il va s'enlever de là, il y a un contrat, il faut qu'il joue. Tu comprends, les joueurs non plus ne sont pas stupides. Là. Les joueurs savent ce qu'ils font. Mm-hmm. Ils savent très bien ce qu'ils font. Il n'y a aucun joueur des majeurs là, qui veut se faire biner exprès, surtout dans des parties où est-ce que ça peut te faire mal. Comme Forto savait très bien ce qu'il faisait.
Ouais.
Roberto Pérez savait très bien ce qu'il faisait. Alors, encore une fois, quand tu me dis que tu aimes ça être un grinder, tu aimes ça, écoute, j'en veux 9 comme ça dans mon équipe. Parce
bon,
que ça
excellent, je vais aller jouer pour toi. Tu viendras coacher les Alpes de Schlager, c'est très sûr. Ton frère jouait, là, déjà joué avec
toi. Oui, je sais. Donc, vous me suivez que, tu sais, il y a des joueurs, puis je nommerai pas de nom ici, là, mais lorsque j'étais avec les Jays, puis on allait jouer contre d'autres équipes, là, même en partant, là, il y a des joueurs qui parlaient, bon, là, on joue contre Benoît, là, si lui, je ne l'aime pas, là, on va essayer d'y lancer ci, on va essayer de le tasser de la plate, et si lui, il lance, on va essayer de faire ça, tu sais. T'as déjà, là, il y a des joueurs qui ont déjà, là, des réputations comme ça, et moi, je trouve ça tellement bon, parce que, comme je te dis, ça va chercher, là, l'émotion, puis ça va chercher l'énergie dans l'autre équipe, mais de la mauvaise façon, tu sais, de la façon négative, ouais. Déjà un avantage. Alors, sais-tu quoi? Si tu es un joueur comme ça et l'autre équipe te déteste, bravo à toi.
Ben, moi, c'est le type de joueur que j'essaie d'être. Là, mais le plus beau commentaire qu'on m'a déjà dit aux joueurs, c'est « Maudit qu'on aille ça jouer contre toi, mais on prendrait tout dans notre équipe. »
Exact.
C'est bien résumé, le Brad Marchand du baseball. Marchand, on prendrait dans notre équipe aussi, mais on n'aime pas ça jouer contre.
Je performe moins, par exemple.
Tant que tu respectes les règles. Moi, tant que...
Exact.
Avec le baseball, tant que tu respectes, tu sais, comme je te dis, là, toi, ça te tente de glisser aux deux, ça te tente de bunter, ça te tente de faire ce que tu veux. Hey, ça fait partie du baseball. C'est là pour ça. C'est fait. Pour ça. Je veux dire, il est où le problème? Moi, j'adore lancer en arrière des coureurs tout le temps. Là, quand je vois à la réco catcher, je lance tout le temps en arrière. Je suis tout le temps en train de surprendre notre équipe. Des fois, les gars, oh mon Dieu, pourquoi tu as fait ça? Hey, c'est permis. Alors, pourquoi ne pas le faire? Mm-hmm. Ce que Pérez a fait, c'est permis. Rondon s'est trompé.
Ouais, comme on a déjà vu des matchs en point de coup sûr essayer de se faire arrêter par un amorti. Là. Je veux dire, c'est ça aussi, c'est un peu anti-baseball, là, essayer de faire un amorti quand l'autre fait un match en point de coup sûr. Là, de faire un amorti surprise. Mais c'est permis dans les règles. Le frappeur a droit de prendre cette décision-là.
Si la game est 1-0, puis que ce soit un match parfait ou non, je te comprends. Par contre, si la game est 10-0, puis tu essaies de bonter, ça se peut que tes trois prochains à te battre, on te lance dessus. Là.
Ouais, je sais pas si Pérez voulait préparer les prochains matchs, mais en tout cas, je sais que il n'a pas été utilisé, je pense, les deux matchs d'après.
Non, puis le match d'après, les bancs sont vidés hein, sur le jeu, mais ça ne fait pas rapport, mais bon. Il nous reste à peu près 5 minutes au show. Et c'est notre segment Pitch and Catch. Et Ozoué, on va t'impliquer dans ce segment-là aujourd'hui. Alors, Ben, rapide, courbe, glissante ou changement de vitesse?
Écoute, avec le compte où on est rendu, je vais y aller avec une glissante. On va rendre hommage à Rodon.
Ben oui, pourquoi pas, on est concept. Écoute, je vous demande la question suivante. Parmi les joueurs vedettes de la nouvelle génération, lequel aura au final la plus belle carrière? J'ai 4 choix de réponse pour vous et des stats, OK? On commence. Vladimir Guerrero, c'est sa 3e saison. En carrière, 277 de moyenne, 28 circuits, 113 points produits, un OPS de 808, deux buts volés. Ronald Acuña, quatrième saison, 288, 88 circuits, 210 points produits, OPS de 933 et 64 buts volés. Fernando Tatis, troisième saison, 292, 41 circuits, 100 points produits, 935 d'OPS et 27 buts volés. Puis mon dernier, c'est Juan Soto, quatrième saison, 296 de moyenne, 71 circuits, 225 au niveau des points produits, 968 d'OPS et 24 buts volés. Messieurs, quel est votre choix?
Bon, qui aura la meilleure carrière entre Guerrero,
ces quatre joueurs-là?
Acuña, Tatis et Soto.
Ouais.
Hey, ça, là, c'est une glissante. D'après moi, t'as mis de la colle puis du pain sur ta balle.
L'arbitre est venu me voir au monticule pour me montrer.
moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ça qui est le fun.
Non, c'est vrai. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Les quatre joueurs vont être des super vedettes pendant des années. Mais lequel?
Écoute, moi, je vais y aller.
Moi, j'ai déjà mon choix, Benoît, si tu veux y penser encore.
Écoute, moi, j'ai mon choix de cœur serait Guerrero. Mon choix logique serait Tatis. Tu sais, ça dépend. Il y a des joueurs qui sont plus spectaculaires que d'autres. T'sais. Acuña, là, il va avoir une carrière incroyable. Mais tu sais, je pense... Puis il est spectaculaire, mais tu sais, je pense qu'il n'est pas flashy. Ben, il est flashy aussi, là, mais moins que Tatis.
On allait avoir un autre problème, toi puis moi. Ben,
juste à regarder dans son coup, Ronald Acuña, à quel point il est flashy.
OK. Moi, je pense là, que pour résumer, qui a le mieux réussi sa carrière, il faut que ça passe par ton équipe aussi. T'sais, c'est bien beau tous les titres de MVP, ta moyenne au bâton et tout, mais t'sais, les World Series, c'est important. T'sais, les Padres sont dans la même section que les Dodgers. Guerrero, ça sera difficile d'aller chercher avec Toronto de plusieurs séries mondiales à cause de la section, entre autres. Hey, j'ai le goût là, d'y aller champ gauche puis de prendre Juan Soto. Lui, il a déjà gagné une série mondiale. Il a déjà un championnat des frappeurs aussi. Mais tu sais, comme Pelé disait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais je pense que si je dois répondre, au Tatis, j'ai peur qu'il se blesse un matin. Mais
c'est déjà
blessé
beaucoup.
Ouais, c'est ça.
Moi, je pense, Benoît, que t'es trop indécis. Là. Moi,
je dirais Soto.
T'es pas assez confiant.
Non, toi, c'est Acuña, c'est ça.
Ah, moi, c'est Acuña, c'est...
Ben oui, c'est... Venezuela.
Exactement.
Merci, tu me savais d'avance. Moi, je suis indécis, mais toi, t'as un parti pris.
Exactement. Écoute, Ronald Acuña, ce gars-là, la game n'est même pas commencée, il est déjà tout sale. Rappelle-toi d'une chose, Benoît, là, quand il a fait son concours de circuit, là, je ne sais pas si tu as remarqué, il frappait les circuits où? Partout. Dans la droite, dans le centre, dans la gauche. Il court, il est ballon de sacrifice juste en arrière du 3, il arrive au marge. Tu sais, c'est un gars, là, toi qui aimes ça jouer là, à Hart et tout, là, tu devrais prendre des notes sur lui.
Dans les honneurs individuels que Acuña a et que les trois autres n'ont pas, si je ne me trompe pas, c'est Rookie of the Year. Acuña a été recrue de l'année, les trois autres n'ont pas eu.
Puis je pense là, il s'est blessé hier, là, on va voir à quel point ça va être grave, mais si ce n'est pas très grave, là, je te le dis, au début de l'année, moi, c'était mon MVP, c'était mon choix de MVP dans la nationale, et je crois qu'il est bien parti pour ça, mais tu sais, don't get me wrong, là, je prendrai les quatre dans mon équipe demain matin, là, t'en fais pas. Là.
Ça, c'est clair.
Avant de mettre fin au show, puis te dire salut, puis on se revoit la semaine prochaine, puis merci pour tout. Je veux juste mentionner un truc qui m'a complètement fait capoter dans la Ligue majeure cette semaine. C'est Sean Cazemore, fils, qui a rejoué avec les Braves 12 ans après sa première présence dans le baseball majeur. Donc, il y a eu un gap de 12 ans entre son premier séjour, puis là, son deuxième séjour. Je trouve ça incroyable. Puis, Osoué, je calculais ça parce que Cazemore fils a 36 ans. Toi, tu en as 33. Il te reste 3 ans si tu veux revenir. J'ai regardé sur Baseball Reference en 2008, à son premier séjour. Toi, tu étais dans la filiale des Pirates de Pittsburgh avec les Spikes de State College.
State College, mon Dieu. Écoute, Ça, là, c'est tellement une belle histoire, mais en même temps, là, vous allez être, je vais un peu vous refroidir, mais c'est tellement une histoire tellement belle et tellement incroyable, mais en même temps, c'est tellement une histoire qui peut tellement faire mal à plein de monde parce que tu as tellement beaucoup plus de chances de gagner la loterie que de faire ce que ce gars-là il a fait. Tu vois pas ça, c'est quasiment impossible. Pour pouvoir faire ça, il y a une chose qui est certaine, qui est 1000% sûre. Pour qu'une équipe te garde aussi longtemps, tu dois être une personne incroyable. Tu dois être un teammate incroyable. Tu dois respecter tout le monde. Tu dois être poli, tu dois être respectueux, tu dois être fort. Tu dois être... Ce gars-là, là, je suis certain que lorsqu'il va finir son baseball, il va être un coach. Quelque part dans les mineurs ou dans les majeurs, parce que pour pouvoir te garder comme ça, là, c'est pas parce que les braves, ils pensaient qu'il allait pouvoir revenir des majeurs, mais c'est parce qu'ils savent que ce gars-là rend tout le monde meilleur alentour de lui.
Ouais, puis peut-être que, aux yeux, peut-être que c'est. Tu sais, le gars était depuis 7 ans à Gwinnett dans le 3, là. Fait que peut-être que. Puis là, je parle à travers mon chapeau, mais peut-être que les braves ont voulu faire comme OK, ce gars-là a tellement apporté à notre équipe, a aidé aux autres jeunes à se développer aussi. Peut-être qu'on lui donne un anan aussi, tu sais, en le ramenant.
Non, ça n'arrive pas des majeurs, ça.
Okay.
Mais il a été le meilleur, il a été le meilleur frappeur des deux derniers camps d'entraînement. Le Brent Snitker le disait cette semaine. Donc, il l'a mérité sa place. Est-ce qu'il va être encore là au mois de septembre? Bon, on verra, mais je veux dire, il ne l'a pas volé.
Exactement. Lorsque j'étais avec les Blue Jays, puis c'est drôle que tu en parles, on était ma deuxième année, puis c'était les September Call-Ups. Donc, c'est là qu'il rappelle quelques joueurs des mineurs, là, parce que la saison des mineurs est terminée. Donc, on rappelle 5-6 joueurs des mineurs. Et j'étais en train de parler avec M. Shapiro, le président. Je le connais très bien. Puis, je parlais, puis j'y avais demandé, « Hey, c'est donc bien cool, tu sais, vous donnez un petit bonbon. » Il dit, « Non, c'est pas des bonbons. C'est du monde qui mérite d'être ici. Nous, notre but, c'est de gagner et pas de faire plaisir à aucun joueur. » Leur but, là, des majeurs, ce n'est pas de faire plaisir. C'est pas, « Ah, t'es cool, t'es beau et t'es fin. » C'est, « Est-ce que tu vas nous aider à gagner des matchs de baseball? » Oui, d'abord, on t'amène.
C'est qui le joueur qui avait été rappelé?
C'était 5 joueurs, là. Okay. 5 ou 6 joueurs, là, ma deuxième année en 2017. Tu sais, ils rappellent les joueurs, là, du 40-man. Ouais. Donc, on se ramasse à. On passe de 25 à peu près à 30-32 joueurs, là, au mois de septembre. Puis, j'y avais demandé, hey, c'est cool, tu sais, on amène lui, tu sais, c'est cool, ils vont avoir un petit bonbon pour la fin de l'année. Puis, il y avait très, très clair en partant, il dit, Josué, dans les majeurs, tu verras jamais ça. Tu verras jamais un « on te fait plaisir ». Jamais. C'est toujours « est-ce que tu nous donnes une chance de gagner ?» Oui, d'accord, on te rappelle.
Au baseball, il n'y a pas de bonbons, du tabac chiqué, puis des graines de tournesol.
Des graines de tournesol.
Merci.
Oui, mais c'est le fun comme première chronique. Là. On remet ça bientôt. En fait, la semaine prochaine, tu es de retour avec une entrevue. Prépare tes anecdotes, prépare tes histoires. On va aller au fond des choses, puis on se refait une chronique dans un futur rapproché également. Donc, merci d'être là sur le podcast, puis on remet ça.
Merci, Josué, à la semaine prochaine.
Merci, au revoir.
Alors, Ben, c'est terminé. Alors, moi, avant qu'on se quitte, là, je rappelle le courriel lesbutsremplis@gmail.com pour nous écrire, nous donner vos commentaires. Ça va nous faire plaisir de parler baseball avec vous. Alors, n'hésitez pas, et Benoît, je te laisse le mot de la fin.
Oui, puis encore cette semaine, je vais juste prendre le temps de saluer une autre personne qui est décédée. On dirait que dernières semaines, on a quasiment une chronique nécrologique, puis c'est triste, mais tu sais, l'objectif, c'est de rendre hommage. Puis cette semaine, il y a quelqu'un qui est parti, originaire de l'Estrie, un bénévole qui a été très important pour Baseball Sherbrooke. Donc, on salue Steve Gosselin, puis je terminerai le podcast avec les traditionnelles paroles de mon vieil ami Derek Aucoin qui, à chacune de ses émissions de radio, terminait en rappelant que le suicide n'est pas une option. Puis, besoin d'aide, besoin de jaser, 1-866, appel. Donc, salut!
Salut, mon Ben! À la semaine prochaine!
Envoyez donc!
Envoyez donc! On sort de la maison!